venu aujourd'hui pour nous parler d'un architecte, d'un urbaniste, plutôt architecte quand même,
connaît,
enfin, que tout le monde connaît, c'est Le Corbusier.
Le
Corbu pour les intimes.
Voilà, Le Corbu, exactement, un raccourci.
Corbu et le renard.
Le Corbu et le renard, alors lui, il démarre bien l'année. Alors là, je crois que je vais l'appeler Dédé, pas non pas André.
Je vais vous donc parler de la machine habitée. On se retrouve donc troisième fois sur l'antenne pour ces mini-conférences ou micro-conférences.
Micro-conférences. Les vrais, on en reparlera. Hein,
audio-conférences, on pourrait
dire. Audio-conférences, oui.
Voilà, audio-conférences. Et donc, je vous propose aujourd'hui de lire et de commenter quelques extraits de Le Corbusier, qui est donc architecte dont le nom est largement connu du public.
Et je vais vous proposer, puisque ça correspond à peu près à l'époque, en musique de fond, je dis bien, d'écouter un petit morceau d'Éric Satie.
Ça sera parfait.
Ça sera parfait, non ?
Voilà.
Tout doux, tout doux.
Alors Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret Gris, de son vrai nom, est né en Suisse en 1887 et mort en France en 1965. Et c'est notamment en France que s'est déroulée sa carrière d'architecte, après un voyage formateur en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Donc il est allé jusqu'en Turquie et en Grèce. Donc ce voyage, il l'avait réalisé avant la Première Guerre mondiale. Et c'est à cette occasion qu'il a rencontré les architectes allemands modernes comme Peter Behrens, chez qui il a passé quelques mois, Walter Gropius ou encore Ludwig Mies van der Rohe. En 1917, Le Corbusier ouvre son premier atelier d'architecture à Paris. Il se lie d'amitié avec le peintre Amédée aux Enfants. Et en 1920, le voici éditeur de la revue L'Esprit Nouveau, dans laquelle apparaissent ses premiers articles importants sur l'architecture et l'urbanisme. Cette revue sera lue en Allemagne et dans toute l'Europe centrale, ce qui assurera une renommée internationale au jeune architecte. Des années 20 datent aussi les villas puristes de Le Corbusier, dont le plus bel exemple est sans doute la ville Les Heures Claires, construite pour la famille Savoie à Poissy. L'architecte s'engagera également dans le mouvement international de l'architecture moderne, étant parmi les membres fondateurs des CIAM, ce sont les Congrès internationaux d'architecture moderne, qui réuniront régulièrement pendant trois décennies jusqu'à la fin des années 50, les architectes discutant des problèmes de l'habitat et de la ville à l'échelle mondiale. Le plus célèbre CIAM est celui de 1933, qui s'est déroulé sur un bateau entre Marseille et Athènes. Il devait initialement se tenir à Moscou, et qui a donné naissance à la Charte d'Athènes. Donc, c'est encore un texte très connu de Le Corbusier, qu'il avait publié en 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier, désormais confirmé dans son rôle de mentor de l'architecture moderne, aura l'occasion de réaliser quelques-unes de ses utopies dans le contexte de la reconstruction. Tout le monde connaît sans doute la fameuse cité radieuse de Marseille, une gigantesque barre sur pilotis qui abrite non seulement des appartements, mais aussi boutiques, restaurants, bureaux, une piste d'athlétisme, un gymnase, une piscine sur le toit, bref, le rêve. Après sa mort, l'architecture de Le Corbusier fut souvent décriée, considéré comme préfiguration des cités dortoirs, des villes satellites parachutées dans le no man's land des banlieues. Mais pour comprendre cette architecture, il faut aller aux sources de ses idées, resituer Le Corbusier dans son époque, celle de l'Europe au lendemain de la Grande Guerre. C'est bien dans les années 20 que le jeune architecte, tout juste formé, prend le pseudonyme Le Corbusier et s'exprime sur l'état de l'architecture et de l'urbanisme, sur les pages de sa revue L'Esprit Nouveau, ainsi que dans ses nombreuses conférences. Ses premières idées seront synthétisées dans l'ouvrage « Vers une architecture » publié par ses propres soins en 1923. Dans ce livre, Le Corbusier veut véritablement ouvrir les yeux du public et des messieurs les architectes qui semblent ignorer l'avènement de l'ère machiniste. Et voici ce qu'il écrit. « Une grande époque vient de commencer. » Il existe un esprit nouveau. L'industrie, envahissante comme un fleuve qui coule à ses destinées, nous apporte les outils neufs adaptés à cette époque nouvelle, animée d'esprits nouveaux. Alors que l'histoire de l'architecture évolue lentement à travers les siècles, en 50 ans, le fer et le ciment ont apporté des acquisitions qui sont l'indice d'une grande puissance de construction et l'indice d'une architecture aux codes bouleversés. Si l'on se place en face du passé, on mesure que les styles n'existent plus pour nous, qu'un style d'époque s'est élaboré. Il y a eu révolution. Et ajoutons que Le Corbusier envisageait initialement de publier son livre « Vers une architecture » sous le titre « Architecture ou révolution ?» Ce qui montre parfaitement la cristallisation d'une idée, d'ailleurs largement répandue par la suite, comme quoi l'architecte est un démiurge capable par son œuvre de transformer radicalement le monde. Mais dans un premier temps, Le Corbusier constate une dichotomie déplaisante entre l'évolution du monde et la pratique architecturale contemporaine. Et il écrit « Esthétique de l'ingénieur et architecture, deux choses solidaires, consécutives, l'une en plein épanouissement, l'autre en pénible régression. » Le Corbusier est en effet persuadé que l'architecture est l'un des plus urgents besoins de l'homme. Et ainsi, il veut tourner ses regards vers le monde généré par l'industrie moderne. Ses conférences, qu'il donne aussi bien à Paris qu'à Genève par exemple, commencent souvent par une projection muette de diapositives qui montrent des voitures, des paquebots ou des avions, tout un imaginaire machiniste qui suscite l'admiration chez le jeune architecte. Et à ce propos, il écrit « L'avion est certainement, dans l'industrie moderne, un des produits de plus haute sélection. Je me place au point de vue de l'architecte dans l'état d'esprit de l'inventeur d'avion. La leçon de l'avion n'est pas tant dans les formes créées, et tout d'abord il faut apprendre à ne pas voir dans un avion un oiseau ou une libellule, mais une machine à voler. La leçon de l'avion est dans la logique qui a présidé à l'énoncé du problème et qui a conduit à la réussite de sa réalisation. Quand un problème est posé, à notre époque, il trouve fatalement sa solution. Le problème de la maison n'est pas posé. Posons le problème. Fermons les yeux sur ce qui existe. Une maison, un abri contre le chaud, le froid, la pluie, les voleurs, les indiscrets. Un réceptacle de lumière et de soleil. Un certain nombre de cases affectées à la cuisine, au travail, à la vie intime. Une chambre, une surface pour circuler librement, un lit de repos pour s'étendre, une chaise pour être à l'aise et travailler, une table pour travailler, des casiers pour ranger vite chaque chose à sa « right place ». Il parle même anglais. Hein. Combien de chambres ? Une pour cuisiner et une pour manger, une pour travailler, une pour se laver et une pour dormir. Tels sont les standards du logis. Et donc, ce qui est intéressant dans cet extrait que je viens de vous lire, c'est le fait que Le Corbusier renonce à une quelconque approche sentimentale et esthétique de l'architecture. Il prend pour modèle l'avion, la machine à voler, une machine moderne, fonctionnelle, produit des hautes compétences techniques. Il se met dans la peau d'un ingénieur pour définir les besoins du logis, de sorte à proposer une maison qui sera pareillement moderne et fonctionnelle. Une maison qui sera donc une machine à habiter.
Thank you.
C'était donc un morceau bien connu hein, d'Eric Satie. Sonia Depuis Neuf, hein, vous êtes avec nous depuis un petit moment sur Radio Neptune, sur le 95 FM. Vous venez de nous parler de Le Corbusier. Eh bien, on va continuer à en parler.
De sa machine à habiter. Hein.
Sa machine à habiter. Non pas la machine à voler, mais
La machine à voler, c'est l'avion. La machine à habiter, c'est la maison, d'après Le Corbusier. Donc, j'espère que les auditeurs ont apprécié, tout comme nous, la musique d'Eric Satie, qui était un musicien et compositeur tout à fait proche de l'avant-garde parisienne, notamment de Tzara, de Breton, de Picabia, de Marcel Duchamp, qui était d'une génération avant Le Corbusier, qui était aussi mort beaucoup plus tôt, en 1925.
Juste une petite chose, hein, parce que tout à l'heure, quand vous nous parliez de la Cité radieuse de Marseille, il y en a une à Nantes, hein, du reste.
Oui.
Voilà. Et bien maintenant, ça faisait peut-être logement social, etc., mais avec tout le magasin, la piscine, le cours de tennis, etc. Mais maintenant, c'est pour les gens les plus friqués, finalement, parce que tout le monde s'arrache.
Ce n'était jamais vraiment les gens les plus pauvres qui habitaient.
Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, une pièce pour pièce pour dormir, une pièce pour manger.
Ça
on
fait
en
quand
est
même
loin.
Un
T5. Oui, tout à fait.
C'est clair. Donc, en tout cas, Le Corbusier, qui vivait à une époque où les sciences et les techniques ont subi de grandes transformations, a considéré que l'essor du machinisme a conditionné l'homme moderne. Donc, sous le terme machinisme, on peut entendre non seulement l'utilisation des machines dans l'industrie, mais également leur intrusion dans la vie quotidienne, qui est évidemment très forte dès le début du XXe siècle. Et donc, voici ce que dit Le Corbusier. Dans tout homme moderne, il y a une mécanique. Le sentiment de la mécanique existe motivé par l'activité quotidienne. La mécanique porte en soi le facteur d'économie qui sélectionne. Il y a, dans le sentiment mécanique, du sentiment moral. L'homme intelligent, froid et calme, a acquis des ailes. On demande des hommes intelligents, froids et calmes pour bâtir la maison, pour tracer la ville. Évidemment que notre architecte, qui ne manque pas de confiance en soi, il faut le dire, se considère comme celui qui correspond parfaitement à ce profil. Et désormais, il dessine des projets de maison et des plans de ville nouvelle. Et on connaît bien son projet de 1925, dit plein voisin, qui prévoit de raser le Marais, le quartier historique de Paris, pour y construire 18 gratte-ciel régulièrement disposés dans une trame urbaine lâche où la rue tend à disparaître. D'autres projets voient le jour, ceux des maisons individuelles, des villas construites pour une riche clientèle perméable à la modernité. Ce sont ces fameuses villas puristes, toutes blanches de l'extérieur, dans lesquelles Le Corbusier veut appliquer les 5 points de l'architecture moderne qu'il énonce en 1926. Et donc ces 5 points sont les pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre-bandeau et la façade libre. Les pilotis permettent en effet de gagner la surface verte au sol. L'idée, c'est de construire, comme d'ailleurs la cité radieuse le sera, construire en hauteur pour gagner la surface au sol. Le toit-terrasse permet évidemment d'avoir un jardin au soleil, de profiter pleinement du beau temps. Le plan libre permet d'améliorer la circulation et il est possible grâce à la suppression des murs de refend. Donc vraiment grâce à la progression des techniques constructives. La fenêtre bandeau, c'est une fenêtre donc qui est longue et qui permet d'apporter plus de lumière naturelle dans les pièces puisque le soleil, tout au long de sa course dans la journée, va pouvoir pénétrer dans la pièce sous différents angles. Et enfin, la façade libre, c'est véritablement un renoncement à une quelconque esthétique a priori de la façade. Donc l'architecte ne va pas partir de la façade, d'une symétrie des fenêtres et des portes pour définir le plan de la maison, mais au contraire, la façade va tout simplement envelopper ce plan qui correspond aux besoins de l'homme. Et donc ces 5 points de l'architecture, ces principes pour Le Corbusier sont universels et sa logique est impeccable. Voici ce qu'il écrit. Tous les hommes ont même organisme, même fonction, tous les hommes ont même besoin. Il faut tendre à l'établissement de standards pour affronter le problème de la perfection. On devine donc cette architecture, cette machine à habiter, comme un produit d'un intellect dépassionné. L'architecture agit sur des standards. Les standards sont choses de logique, d'analyse, de scrupuleuse étude. Les standards s'établissent sur un problème bien posé. L'architecture est invention et spéculation intellectuelle et mathématiques supérieures. Le Corbusier va jusqu'au bout de sa logique pro-industrielle pour proposer la construction des maisons en série. Et c'est une idée qui sera en partie réalisée par les gens comme Jean Prouvé, un ingénieur constructeur, après la Seconde Guerre mondiale, grâce à une commande émanant du ministère de la Reconstruction. C'est un ministère à la tête duquel se trouve, à partir de 1948, si mes souvenirs sont bons, Eugène Claudius Petit, la personne qui va aussi solliciter Le Corbusier pour la construction des unités d'habitation, dont la Cité radieuse à Marseille. Mais dès 1921, Le Corbusier projette une maison en série qu'il baptise Citroën, pour ne pas dire Citroën, explique-t-il. Autrement dit, une maison comme une auto, conçue et agencée comme un omnibus ou une cabine de navire. Eh oui, voyage, voyage, mais la maison Citroën n'a pas encore des roulettes. Et avec Monol, une autre maison en série, Le Corbusier rêve des lotissements. L'unité des éléments constructifs est une garantie de beauté. La diversité nécessaire à un ensemble architectural est fournie par le lotissement qui conduit aux grandes ordonnances, au véritable rythme de l'architecture. Un village bien loti et construit en série donnerait une impression de calme, d'ordre, de propreté, imposerait fatalement la discipline aux habitants. Et voyez encore une fois, l'architecte exprime, on ne peut plus clairement, l'idée que l'environnement bâti conditionne le comportement humain. D'où bien sûr l'importance de l'architecte dans la transformation du monde. Évidemment, beaucoup d'idées de Le Corbusier ont été depuis remises en question. Certains de ses propos peuvent nous paraître aujourd'hui simplistes, voire naïfs. Ses projets imparfaits et quelques-uns de ses refus radicaux erronés, comme par exemple l'idée de supprimer la rue, qui ne peut conduire qu'à détricoter, malheureusement, la trame urbaine. Mais fondamentalement, cette pensée utopique de l'architecte est sous-tendue par une acceptation du monde moderne tel qu'il s'imposait inévitablement à l'homme à l'aube du XXe siècle. Et en cela, Le Corbusier a apporté un angle de vue tout à fait intéressant, et la lecture de ses premiers écrits, que je vous conseille, est tout compte fait très instructive et passionnante encore aujourd'hui.